les profits n'ont rien à faire au sein d'un hôpital qui doit rester public. Il faudrait bien entendu plus de moyens humains, c'est-à-dire paramédicaux, notamment médicaux aussi, une revalorisation salariale pour les plus bas salaires de l'hôpital. Car, je tiens aussi à le rappeler, on fait partie des plus bas salaires au niveau de l'OCDE et des pays riches. Et bien entendu aussi, l'arrêt de la fermeture des lits et la réouverture de ces lits, parce qu'il manque pas mal de lits en aval. Là, je peux parler en tant qu'ancien aussi soignant au niveau des urgences, où j'ai pu rencontrer des patients qui sont restés 12 heures sur des brancards parce qu'il n'y avait pas de place en médecine, pas de place en chirurgie ou autre. Il n'y a pas que sur Paris, il y a surtout aussi au niveau des hôpitaux de province, il faut se faire entendre, c'est au niveau national. Et c'est pour ça que je vous demande de faire au moins du bruit.
C'était hier soir, mardi 2 juin. Alors qu'à Paris, des milliers de personnes se rassemblaient pour Adama Traoré et dénonçaient l'ensemble des crimes racistes, à Mont-de-Marsan, c'est un autre combat qu'on menait. Vous venez d'entendre les cris, les bruits des personnels d'établissements hospitaliers de la préfecture landaise rassemblés devant l'AINE en réponse aux premières mesures annoncées dans le cadre du Ségur de la santé lancé par le gouvernement suite à la crise sanitaire. J'ai cherché « Ségur » dans le dictionnaire en vain. Si ce n'est la comtesse, le terme m'était jusqu'alors inconnu. Le compte-rendu du Conseil des ministres en date du 20 mai 2020 dit ceci. Le ministre des Solidarités et de la Santé a présenté une communication relative au Ségur de la Santé. Le 25 mars 2020, le président de la République a pris un engagement auprès de toutes les femmes et les hommes mobilisés dans la crise du Covid-19. À l'issue de cette crise, un plan massif d'investissement et de revalorisation de l'ensemble des carrières sera construit. En appelant de ses vœux la tenue d'un Ségur de la santé, une réforme donc, le chef de l'État a détaillé les quatre piliers sur lesquels devra reposer le futur plan. Revalorisation des carrières et développement des compétences et des parcours professionnels à l'hôpital et dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, à savoir les EHPAD. Plan d'investissement et réforme des modèles de financement, mise en place d'un système plus souple, plus simple, plus en proximité, en revalorisant le collectif, le sens de l'équipe et l'initiative des professionnels, mise en place d'une organisation du système de santé fondée sur le territoire et intégrant l'hôpital, médecine de ville et médico-social. Le lancement du Ségur de la santé interviendra le lundi 25 mai. Les concertations nationales s'engageront ainsi sur l'ensemble des thématiques avec les acteurs concernés et en particulier sur la revalorisation des parcours professionnels. Je vous propose d'aller à la rencontre de certains et certaines d'entre eux et elles, d'entre ceux et celles qui étaient hier du côté de l'hôpital l'AINE. C'est Yann, infirmier aux urgences de Mont-de-Marsan, qui nous explique la présence de ces dizaines de personnes devant le centre hospitalier de l'AINE.
Alors aujourd'hui, on répond à l'appel du collectif interurgences national et collectif interhôpitaux national. Une action qui a commencé à l'hôpital Robert Debré il y a à peu près 15 jours, 3 semaines. En fin de compte, l'idée était de commencer par remercier les usagers qui ont applaudi à leur fenêtre chaque jour à 20h. Ça nous a énormément touchés. Et donc c'était faire du bruit, l'hôpital voulait faire du bruit pour tous les usagers. Et de là aussi, ben, on profite pour continuer nos revendications qui ne sont pas écoutées pour le moment par le gouvernement. Et puis, il y a eu un nouvel événement avec le Ségur de la Santé qui est en route maintenant depuis 10 jours où on a, ils ont carrément écarté les deux collectifs, Interurgence et Interhôpitaux, pour faire place à d'autres collectifs et aux associations syndicales. Mais par contre, les professionnels de santé ont clairement été écartés. Donc là maintenant, les professionnels de santé vont faire du bruit, vont appeler les usagers et on va se battre tous ensemble parce que nous, on se bat principalement pour eux déjà.
Une réforme de santé sans les professionnels de santé, somme toute assez paradoxale comme idée.
On va dire que ça va dans la suite logique de ce qui se passe depuis 30 ans dans les hôpitaux en France. Que je crois que quand on prend les 15 dernières années, je crois que c'est 70 000 lits qui ont été supprimés sur les hôpitaux. Et aujourd'hui, l'hôpital de Mont-de-Marsan, là, ça y est, la crise Covid se tarit, donc on reprend l'activité normale. Hier, il y avait des gens qui attendaient pendant 6 heures. pendant plus de 6 heures, ils attendaient parce que on manque de place, on manque de brancards, on manque de lits, en aval dans les services. Il y a eu des fermetures de services depuis des années, il y a eu beaucoup de restructurations et ça c'est tout simplement plus possible. Il faut réouvrir tous ces lits, il faut donner les moyens à l'hôpital public. Là, la volonté, elle est claire, elle paraît de vouloir arrêter cet hôpital public. Or, l'hôpital public, c'est, vous voyez, tous les gens qui sont là, c'est les cotisations de chaque personne. Et on a tous le droit d'être accueillis correctement à l'hôpital. Et on a surtout aussi le droit, en tant que soignant, de travailler dignement.
La semaine dernière, nous avons évoqué dans un tout autre cadre le dernier numéro de Cash Investigation qui s'intéressait aux inégalités salariales. Au cours de l'enquête, Élise Lucet et son équipe revenaient sur le protocole Bachelot mis en place en 2010. Lors de sa campagne présidentielle, Nicolas Sarkozy avait annoncé une augmentation annuelle de 2000 euros pour les infirmières, jugeant ce corps de métier capital. Ainsi, lors de la mise en place de cette augmentation, une contrepartie a été exigée, celle de renoncer à la pénibilité. Or, nous venons de l'entendre, et nous avons pu le constater pendant des mois, c'est quand même un poil éreintant comme job.
Alors cette pénibilité, justement, depuis un an et demi maintenant, le collectif Interurgence se bat pour ça, se bat pour le problème salarial, je veux dire 26e payé au niveau de l'OCDE, hein, c'est ça. C'est tout simplement, c'est indécent, irrespectueux. Et effectivement, toutes ces réformes qui ont pu être faites depuis montrent clairement la pénibilité qu'il y a aujourd'hui à l'hôpital. Et aujourd'hui, effectivement, pour nous, les infirmiers, alors là, c'est plus spécifique, mais c'est pareil pour les collègues dans les services, c'est très dur, c'est un métier physique quand même. Et de se retrouver, pour ma part, à 60 ans, dans un camion de SMUR, à aller chercher quelqu'un dans un fossé la nuit qui a eu un accident de voiture, je me dis, est-ce que ça va être encore possible? Donc il va falloir que moi je trouve une solution pour laisser la place aux jeunes s'il y en a, et puis moi faire autre chose. Mais est-ce que je vais pouvoir le faire? Justement, c'est là la question. Et effectivement, là aujourd'hui on est parti pour travailler jusqu'à 63-64 ans. C'est tout simplement, mais c'est indécent, c'est pas normal.
Et rappelons ici que c'est en pleine grève contre la réforme des retraites que nous avons vu la pandémie se déployer. Ils et elles, les personnels soignants, étaient alors nombreux et nombreuses dans la rue.
Radio MDM FM. Radio MDM FM.
Je vous propose maintenant de faire connaissance avec Adrien. Il est infirmier en réa, membre du collectif Interhôpitaux et à l'initiative avec une de ses collègues du rassemblement de ce mardi 2 juin. Selon lui, la crise sanitaire a souligné la situation déplorable, de l'hôpital public français.
Ça a surtout permis de démontrer que l'hôpital est en malaise. Voilà, on l'a très bien vu avec le Covid, les manques de places en réanimation, le manque de places humaines où il y a eu une nécessité de reprendre des soignants qui étaient à la retraite, des soignants qui étaient dans le privé, qui ont dû revenir dans le public. Enfin voilà, cette crise en tout cas a permis de montrer que l'hôpital était déjà en souffrance et là il était encore plus si une nouvelle pandémie arrive, qu'on ne peut pas la gérer correctement tout simplement.
Pour ne pas avoir affronté une nouvelle crise dans de telles conditions, ils ont choisi de reprendre les manifestations.
Là, ça fait un petit peu plus d'un an qu'on est en grève. Donc ça a débuté par l'agression d'une infirmière en fait dans les hôpitaux aux alentours de Paris. Du coup, il y a eu le collectif Interurgence qui s'est créé. Voilà, parce qu'il y avait vraiment un ras-le-bol. C'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Par la suite, il y a le collectif Interhôpitaux qui s'est rallié, en fait, qui s'est rallié avec le collectif Interurgence, qui se sont mis en commun avec l'intersyndicale, pour justement, en fait, des trois revendications qui sont à l'origine de notre mouvement. Donc, c'est tout simple, hein, c'est plus de moyens, notamment l'arrêt et la réouverture des lits, justement, plus de moyens humains pour prendre mieux en charge les patients. Je parle en tant que connaisseur, parce que j'ai travaillé aussi avant aux urgences où il n'y avait pas de lit d'aval. Donc on gardait aussi des patients de 90 ans sur des brancards pendant 12 heures. Donc ça, c'était inadmissible. Et après, notre deuxième revendication, ça reste la revalorisation salariale des plus bas salaires de l'hôpital, notamment les infirmières et les aides-soignants, qui sont au plus bas de l'OCDE. Voilà. Et ça, par contre, ça fait plusieurs années qu'ils militent, plusieurs dizaines d'années, et ça n'a toujours rien donné.
En attendant une éventuelle revalorisation salariale globale et pérenne, le gouvernement a très vite parlé de primes, pas toujours bien accueillies par le personnel soignant.
Malheureusement, les primes, ça ne peut faire que diviser les soignants, alors que c'est un moment où il faut justement tous se réunir. Effectivement, nous, on avait été délaissés par les primes Covid, alors qu'on avait reçu deux patients du Nord-Est. On a eu des patients Covid, hein, même si on a été peu impactés, on les a quand même eus. En tout cas, je pense autant que les autres hôpitaux du Sud-Ouest, comme je vais citer Bagnères-de-Bigorre, Bayonne, Tarbes, enfin voilà. Je pense que c'était une mauvaise idée à la base de faire cette histoire de prime, parce que ça fait que diviser les soignants. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment, si on veut parler d'argent, c'est la revalorisation salariale pour quelque chose de pérenne. Quoi.
Quant au Ségur de la santé, Adrien reste sceptique.
Moi, je vais retenir juste une chose qui ne nous satisfait pas du tout. C'est que voilà, pendant les conseils hein, du Ségur avec les ministres, il y a eu que donc l'intersyndicale, il y a eu le CIH qui sont partis fait de médecins, donc qui sont au niveau du conseil. Le CU n'a pas été invité à participer. Pourquoi ? Parce que il est composé essentiellement de paramédicaux. Voilà. Et en fait, on n'est pas vraiment représenté au niveau paramédicaux sur le Ségur. Voilà. Il n'y a qu'une seule infirmière qui est représentée, ça reste c'est une cadre supérieure. Mais il manque vraiment des soignants, parce que nous, nos revendications, c'est vraiment pour améliorer le travail des paramédicaux et forcément améliorer la prise en charge des patients. Du moment qu'on est entendu et qu'il y ait vraiment une remise à plat de l'hôpital, parce qu'il n'y a pas qu'on non plus pour les paramédicaux, je trouve que la santé ne devrait pas être gérée comme une entreprise privée. Enfin voilà, il n'y a pas de profit à faire sur la santé. Et là-dessus, je pense qu'il faut faire une remise à plat. La T2A qui a été faite il y a quelques temps maintenant, une tarification à l'axe, c'est pas représentatif en fait du travail que l'on fait. Chaque patient, c'est pas autant de minutes. Chaque patient est individuel et forcément il faut du temps. Et je pense qu'on oublie malheureusement le temps relationnel. Enfin, les supérieurs oublient le temps relationnel qu'on doit faire avec nos patients et nous c'est pour ça qu'on revendique aussi.
Pour une petite précision sémantique, les professions paramédicales comprennent l'ensemble des professionnels de la santé qui ne sont pas formés comme les médecins, les pharmaciens ou les sages-femmes, mais qui se consacrent aux soins et aux traitements en étroite collaboration avec les médecins.
MDM. MDM. Bienvenue sur la moins pénible des radios.
On clôture notre petit tour d'horizon des soignants et soignantes qui s'étaient rassemblés hier devant l'hôpital Lainé pour à la fois saluer les usagers et leur générosité pendant le confinement et rappeler combien l'hôpital public est en danger selon eux. C'est Sylvie, infirmière en réa à Mont-de-Marsan, qui m'a d'abord livré ses impressions quant à cette crise inédite.
Globalement, on a été très bien organisés. Ça, il faut le noter parce que c'est vrai que comme la vague est arrivée via le Grand Est et la région d'Île-de-France, ça nous a permis à nous, en province, de se préparer à ce qu'il allait avoir. Donc on a eu cette chance-là, quelque part. Après, il faut comprendre qu'en plan blanc, on revient sur nos congés sont annulés, on revient sur nos repos, on a des renforts qui sont venus des autres services qu'il a fallu prendre ensemble pour accueillir les patients suspects Covid, isolés.
Et évidemment, le caractère inédit de la situation a renforcé l'effet anxiogène.
Oui, on avait un gros climat anxiogène, même si c'est vrai que des isolements, on en a tous les jours, des patients avec des maladies, des tuberculoses, etc. C'est vrai qu'on sait le gérer, ça. Mais il faut se rendre compte que dans un pays complètement coupé de tout, confiné, on a dû quand même faire notre travail et personnellement, mais comme beaucoup de mes collègues, on ne s'est pas plus posé la question ça. On a dit, il faut le faire, de toute façon, les gens ont besoin de nous. Et aujourd'hui, on a besoin des gens pour qu'enfin, on puisse reconnaître que l'hôpital a besoin aussi d'aide.
Voici résumé en quelques mots le message que tentent de faire passer les soignants et soignantes de France.
C'est notre travail, ça on peut pas le nier. Hein. C'est une vocation d'être soignant, d'aller soigner les gens. Mais aujourd'hui, c'est les mardis de la colère, comme partout en France. On est là pour dire, on a fait notre job, c'est vrai, mais ça fait des mois, des années qu'on dit que ça va pas, qu'on crie que ça va pas, qu'on est en souffrance. Et il faut nous entendre, parce que c'est notre combat, mais en vrai, c'est le combat de tous, de chacun. Parce que l'hôpital, c'est... Dans toutes les étapes de la vie, on passe par l'hôpital, que ce soit les bons et les moins bons moments. Donc c'est un combat de chacun. On a besoin de tout le monde. Alors on est en première ligne, entre guillemets, c'est vrai, parce qu'on le voit tous les jours. Mais il faut que la société, elle nous entende. C'est pas possible qu'on continue comme ça. C'est pas pour, c'est pas une question pécuniaire ou autre. C'est vraiment prendre soin des gens. Une qualité qu'on a perdue. Et il faut se rendre compte aussi que nos droits, aujourd'hui on les a, mais c'est grâce aussi aux anciennes générations qui sont parties, qui ont risqué leur salaire, risqué un peu aussi au niveau professionnel pour dire ça va pas, il faut des droits, pour parler collectivement. Et aujourd'hui dans cette société, bah, le collectif on n'en parle plus trop, avec les réseaux sociaux on est beaucoup très individualiste. Et là c'est vraiment un mouvement qu'il faut que ça soit vraiment fondamental. Il faut que ça vienne de tout le monde. On a besoin, on n'y arrivera pas sans tout le monde.
On a parlé de héros, beaucoup, pendant cette crise. Et Sylvie, comme la plupart de ses collègues, ne revendique pas ce statut qui leur a été attribué.
Personnellement, j'étais assez abasourdie par ces propos parce que... Enfin, je veux dire, en chacun de nous, on peut avoir un héros, etc. C'est facile, c'est un mot comme ça donné pour pointer du doigt de façon positive aujourd'hui et puis pour tourner le dos derrière demain. Mais en vrai... Non, on n'est pas des héros. C'est, encore une fois, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent oui, qu'est-ce qu'ils se plaignent, ils ont été payés, c'est leur boulot. C'est vrai, c'est notre travail, on le fait avec passion, on est des passionnés, c'est une vocation. Mais pour autant, on n'est pas dévoués corps et âme, sans la moindre reconnaissance. Et on ne peut pas continuer à voir les gens et leur dire excusez-moi, je ne peux pas faire mieux parce qu'en fait, j'en ai pas les moyens. Et en fait, personne ne peut se donner les moyens parce que personne ne nous regarde. Ils sont occupés avec l'économie, etc. Est-ce que c'est vrai, ils ont raison. Mais pour autant, on a le système français, on a un système de santé fantastique. Et on a la chance, on est fiers. Je suis fière d'être française, je suis fière de faire un métier comme ça, et d'avoir un système comme ça, mais plus dans ces conditions.
C'est pour ce système français, dont Sylvie est fière, que les personnels hospitaliers manifestent en France aujourd'hui pour les mardis et jeudis de la colère. Parce qu'ils et elles ont l'impression qu'on gère l'hôpital public comme n'importe quelle entreprise.
L'hôpital, c'est une entreprise. C'est ça l'aberration, en fait. On va complètement à l'opposé du fondement même de l'hôpital et du système de santé. Alors bien sûr que je ne suis pas dans un monde de bisounours, je travaille en réa, il y a 25% de mortalité, donc je suis dans la réalité, je sais que c'est comme ça et qu'on ne peut pas être comme à penser qu'on peut avoir les meilleurs soins sans faire des efforts de notre côté, bien évidemment. Mais je crois qu'il faut repenser de façon littérale. À la base, il faut reconstruire et souvent les patients, ils restent plusieurs jours hospitalisés et c'est un délai qui est allongé parce qu'il n'y a pas assez de lits dans les services de convalescence, parce que il faut plusieurs jours pour avoir un examen, donc ça retarde la prise en charge, parce que les laboratoires, du coup il y a des ruptures en termes de médicaments et du coup on ne peut pas donner le médicament comme on voudrait assez tôt pour une meilleure prise en charge, donc le délai d'hospitalisation qui est allongé, ça, vous croyez que ça coûte pas de l'argent? Et ça embête personne. J'ai l'impression que c'est comme ça. Alors qu'au final, si on avait des soins de meilleure qualité, si on avait plus de lits, plus de moyens au niveau matériel et humain pour bien prendre le soin des gens, au lieu d'avoir une durée d'hospitalisation de 10-15 jours, ça serait réduit. Les gens seraient contents, entre guillemets, en tout cas moins mécontents de rester à l'hôpital autant de temps, parce qu'ils garderont du temps précieux, parce que souvent c'est les personnes âgées et le temps est précieux pour les personnes âgées. C'est pour ça que c'est pas une question pécuniaire, il faut repenser le système hospitalier, il faut donner des moyens humains, on a besoin de personnel pour être au chevet des personnes qui en ont besoin, les personnes soignées ont besoin de nous à leur chevet, mais aussi des moyens matériels, des moyens plus de lits, alors de façon cohérente, bien évidemment. C'est pas pour les laisser vides et qu'on soit les bras croisés, mais je vous assure, j'invite tout le monde, tous les politiciens, tous ceux qui se posent la question, qui disent elle exagère, j'invite tout le monde à venir dans un service hospitalier. Je les invite à venir avec moi 12 heures de jour ou 12 heures de nuit en réanimation et voir comment ça se passe.
C'est quoi, par exemple, 12 heures avec vous?
12 heures, que ça soit de jour ou de nuit, c'est 12 heures où on est c'est vrai, 3 à 4 malades de réanimation, vous allez me dire, comparé à des filles qui sont infirmières en gériatrie et qu'elles font un travail formidable. C'est ultra louable d'avoir 15, 20, 30 patients, 30 résidents. Et franchement, je le respecte du fond de mon cœur. Et déjà, avec 3 à 4 patients, on commence à 7h du matin. On n'arrête pas dès le matin. On prend soin des gens. On va faire les soins de nursing. On remet en cause la thérapeutique tous les jours. On essaie de prendre en charge le malade vraiment dans sa globalité et tout toucher sur le plan neurologique, le plan hémodynamique. On s'occupe des proches. On essaie d'avoir un contact avec eux. C'est un travail harassant et en même temps c'est passionnant, bien sûr, c'est pour ça qu'on y reste, en tout cas le temps d'années qu'on y reste, parce qu'on n'y reste pas une vie, mais vraiment c'est ultra complet et c'est... je trouve pas mes mots,
c'est l'émotion qui prend le dessus.